Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur CNRS La Radio. Après les attentats du 13 novembre 2015, le président du CNRS, Alain Foulkes, a lancé à la communauté scientifique un appel à propositions sur tous les sujets pouvant relever des questions posées à nos sociétés par les attentats et leurs conséquences et ouvrant la voie à des solutions nouvelles. Parmi les chercheurs qui ont répondu à cet appel, Alexandra Erfroy-Michler, elle a mené une étude approfondie sur la stratégie de communication de Daesh. Pour ce travail, elle a analysé le contenu d'une soixantaine de vidéos d'exécutions tournées au Pakistan, en Afghanistan et en Syrie. Bonjour Alexandra Erfroy-Michler.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse associée au CNRS, au Centre de recherche français de Jérusalem. Quel était le but de cette étude portant sur 62 vidéos d'exécutions tournées ou relayées par Daesh ?
Le but principal, c'était vraiment de comprendre les motivations de la production de ces vidéos et surtout le narratif qu'ils cherchaient à véhiculer à travers ces exécutions.
Alors, sans rentrer dans trop de détails, qu'est-ce qu'on voit sur ces vidéos?
On voit une mise en scène très travaillée, d'exécutions donc planifiées, enregistrées, mises en scène, différents uniformes. Et puis, il y a quand même une différence dans ce qu'on montre et ce qu'on ne montre pas. Il y a certains types de vidéos où l'exécution est montrée dans l'intégralité, certaines vidéos qui montrent juste le début et la fin de l'exécution. Donc il y a quand même une sorte de différenciation dans le visuel.
Donc des décapitations, des immolations.
Oui, absolument. On va vraiment crescendo dans l'horreur au fil du temps.
Comment vous vous êtes procuré ces vidéos ?
Donc ces vidéos, elles sont ni diffusées ni sur YouTube ni sur Google. Ces vidéos, nous les avons rassemblées avec la base de données Intel Center, qui est une sorte de base de données formée à partir d'informations rassemblées par l'intelligence locale ou des rabatteurs d'informations, des espions. C'est principalement comme ça qu'on a accédé aux informations.
Quels sont les auteurs de ces vidéos ?
Il y a différents types d'auteurs, principalement des auteurs locaux en Afghanistan, en Pakistan, Syrie, qui font l'exécution et qui ensuite vont la rattacher à Daesh par le label de la vidéo, ou bien les soldats de Daesh.
Donc parfois ce sont des groupuscules isolés, pas forcément directement liés à Daesh ?
Exactement, ce sont des personnes qui agissent de manière individuelle et qui vont ensuite revendiquer l'exécution au nom de Daesh. Et ensuite, Daesh, dans un troisième temps, va faire une sorte de labellisation de la vidéo avec un logo, une traduction et une production donc systématique de ces vidéos.
À qui elles s'adressent ces vidéos ?
Notre recherche a montré quelque chose d'exceptionnel dans le sens où on est parti de l'hypothèse du fait que ces vidéos s'adressaient aux Occidentaux et en fait on s'est rendu compte que la plupart de ces vidéos ne sont pas traduites, elles sont en arabe, 45 sur les 62, et elles sont vraiment adressées à la population locale. C'est une sorte de mise en scène par la peur de ce que pourrait arriver aux populations locales si elles ne se soumettaient pas à Daesh.
Quel message Daesh et ceux qui font ces vidéos veulent envoyer à ces populations locales ?
En fait, ces vidéos, elles servent à une stratégie de segmentation des audiences, où en fait le message qui est véhiculé à travers différents outils rhétoriques, c'est principalement de définir qui fait partie de ce futur État islamique ou de cet État islamique qui a été créé et qui en est de toutes les manières exclu.
Est-ce qu'il y a des points communs, des mots que l'on retrouve systématiquement dans toutes ces vidéos ?
Systématiquement, non, mais on a réussi à construire quatre catégories principales, notamment la définition de qui fait partie de la Oumma, qui est donc la communauté des musulmans pratiquants qui ont le droit de vivre sous l'autorité de l'État islamique, c'est-à-dire les partisans de Daesh. Et de manière très surprenante, l'autre catégorie qui fait partie de cette Oumma, de cette communauté des musulmans, ce sont les chrétiens qui décident soit de se convertir à l'islam ou soit de payer une taxe qui s'appelle jizya à la place de la conversion. Et ces personnes-là sont promis une protection par l'État islamique en tant que minorité dans l'État. Par contre, on va, dans le discours de Daesh, exclure tous les autres types de musulmans qui normalement font partie de la Oumma, de la communauté des musulmans à travers le monde, et on va utiliser des concepts tels que l'occidental, le croisé et le juif et le chrétien, qui sont trois catégories principales, qui sont un petit peu, si vous voulez, copier-coller aux populations musulmanes locales.
Il y a une sorte de mélange entre religieux et politique hein, en permanence dans ces vidéos. C'est aussi ce qui vous a frappé.
Absolument, je pense qu'on est face à un narratif politico-religieux à son paroxysme en fait. Et c'est quelque chose de très difficile pour nous les Occidentaux où on a une séparation de la religion et de la politique très nette. Ici, on mélange tout et puis on en fait des catégories nouvelles. Donc on juge à la fois les opinions politiques et la pratique religieuse comme si c'était un tout.
Alors vous avez dégagé plusieurs concepts qui reviennent dans ces vidéos. Hein. Vous l'avez dit, il y a la croisade, la ville, alors précisez la ville de Dabiq.
Oui, la ville de Dabiq, donc, qui selon certaines personnes existe localement en Syrie, mais c'est aussi une ville qui a une importance dans le discours de la fin des temps dans l'islam, où c'est un peu l'équivalent, si vous voulez, dans le christianisme de l'Armageddon, où il y a une sorte de bataille finale entre les forces du bien et du mal, donc les forces du bien étant Daesh et les forces du mal étant tous les autres population du monde.
Donc une sorte de ville où aura lieu la grande bataille de la fin des temps, et toutes les vidéos d'exécution sont censées se situer dans cette ville symbolique.
Alors les vidéos d'exécution d'occidentaux, très surprenamment. Donc en fait on va localiser l'exécution de l'étranger, de l'occidental, comme appartenant à l'endroit où la fin des temps va être enclenchée. Donc le fait d'exécuter un occidental, c'est faire advenir la fin des temps de manière très active, en fait, pour Daesh.
Troisième concept que vous avez relevé dans ces vidéos, qui revient régulièrement, c'est la loi du talion.
Exactement, la loi du talion, bon, c'est Al-Qasas dans l'islam, l'ex-talioni dans le christianisme, un œil pour un œil, une dent pour une dent, etc. etc. Alors ici, c'est utilisé de manière très intéressante, où en fait les exécutions de citoyens occidentaux sont justifiées comme étant une réponse des musulmans, c'est-à-dire par Daesh, aux violations de l'honneur des musulmans dans des pays colonisés. Donc par exemple dans la vidéo d'exécution d'Hervé Gourdel, on en appelle à François Hollande en disant que Hervé Gourdel va payer pour la souffrance des musulmans au Mali et en Algérie faite par la France.
Et puis il y a ce quatrième concept, les juifs et les chrétiens.
Alors le concept des juifs et des chrétiens est un concept très intéressant, dans le sens où il fait référence à une catégorie dans la loi de l'islam. Il y a énormément de commentaires de hadith sur la décision, si oui ou non, d'appliquer cette décision. En gros, le juif et le chrétien, c'est la catégorie des personnes avec qui on ne peut pas fraterniser, on ne peut pas être ami. Donc ici, on ne fait pas référence aux juifs dans aucune vidéo d'exécution, mais on fait référence aux chrétiens, notamment avec les exécutions des chrétiens africains, d'Érythrée notamment.
Parmi les ennemis de Daesh, donc il y a les occidentaux, les croisés, les juifs, les chrétiens. Sur le terrain, Daesh a des ennemis physiques, des gens qu'il combat, qui n'appartiennent pas forcément à ces trois catégories un peu fantasmées. Pourtant, il parvient à ranger tout le monde dans ces catégories en quelque sorte.
Absolument, ils vont construire une sorte de parallélisme dans leur narratif où en fait l'occidental symbolique va devenir, enfin, est comparé aux soldats de l'armée syrienne. Le croisé va faire référence à la fois aux Jordaniens, aux Irakiens, aux Kurdes, aux Afghans. Tous ces musulmans-là sont comparés à des croisés pour leur rôle au Moyen-Orient selon le narratif de Daesh. Et enfin, donc, le juif et le chrétien par rapport aux paramilitaires syriens et aux espions à l'intérieur de Daesh.
Alors ces vidéos, vous nous l'avez dit, elles sont destinées pour la plus grande partie aux populations locales. Certaines, quand même, ont été réalisées spécialement pour être adressées aux Occidentaux, à nous.
Toutes les exécutions d'occidentaux, oui, totalement. Le narratif est construit de telle sorte qu'on explique pourquoi l'otage a été capturé, pourquoi est-ce qu'il symbolise la chose par excellence à supprimer sur la terre, et pourquoi Daesh prend la décision de l'exécuter. Donc oui, le message est totalement destiné aux occidentaux pour les exécutions d'occidentaux exclusivement.
Il a pour but de terrifier la grande majeure partie de la population ou de recruter certains éléments parmi nous ?
Eh bien, je pense que ça fait vraiment, c'est un deux en un. Parce que à chaque fois qu'il y a une exécution, il y a aussi une communication sur l'avancée militaire sur le sol, donc en local. On va filmer l'entrée de certains tanks dans tel et tel village, on va montrer un stock d'armes. On va utiliser ces vidéos à la fois pour communiquer sur l'exécution, mais aussi sur une sorte de point de communication sur l'avancée sur le territoire.
À vous entendre, on a l'impression vraiment que Daesh a une stratégie de communication précise et maîtrisée. Vous pensez vraiment que c'est le cas ?
Alors, ça dépend comment on définit précise et maîtrisée, mais je pense qu'il y a toute une préparation en amont. Donc ça peut qualifier de maîtrisée. Précise, C'est difficile à dire étant donné que, certes, le narratif, il est communiqué de manière très claire, mais je pense que, enfin, personnellement, on a dû se référencer à pas mal d'experts en islam salafiste, pour comprendre. Donc je pense que c'est un narratif qui est à la fois clair, mais très spécifique. Donc pas tout le monde peut vraiment rentrer dans les détails, et je pense que les communiqués des attaques, des attentats, sont vraiment un exemple exceptionnel à la fois de simplicité de l'argumentation, de justification de l'exécution et de complexité des arguments qui sont utilisés.
Les arguments sont simplistes, mais la façon de les exprimer sont particulièrement complexes, voire alambiquées.
Exactement. Ouais.
Quel rôle jouent les médias occidentaux en relayant ces vidéos? C'est aussi une chose qui vous a intéressé dans votre travail, de voir que finalement, malgré eux ou sans trop y réfléchir, les médias occidentaux participent d'une certaine manière à la communication de Daesh en relayant certaines de ces vidéos.
Alors, c'est un sujet extrêmement complexe que je pense qu'on commence seulement à appréhender vraiment en Europe. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec ces vidéos, on a un double message. On a un message religieux et on a un message politique. Et la façon dont on va diffuser ces deux messages, c'est par utiliser l'horreur pour choquer, pour faire le buzz, pour avoir une valeur événementielle dans le système de communication occidental. On sait que plus on choque, plus on va attirer de l'attention. Maintenant, Daesh a totalement conscience du fait que ces vidéos ne vont pas être diffusées par la télévision, elles ne vont pas être reliées dans leur intégralité, puisqu'elles sont absolument horribles et dans les détails graphiques abominables. Donc moi, je pense que vraiment, Daesh s'appuie sur la valeur de l'information comme on le conçoit en Occident.
Mais ma question portait aussi sur le rôle des médias occidentaux, c'est-à-dire qui, même si on ne les voit pas complètement, ces vidéos, on a l'impression de les avoir vues un peu floutées, qu'on nous a en tout cas laissé les imaginer, d'en avoir quand même eu un bref aperçu. Donc quel regard vous portez? Est-ce que ça sert ou ça dessert la stratégie de communication de Daesh, ces bribes de vidéos qu'on a entreaperçues dans les médias?
C'est clair que ça sert la stratégie de communication de Daesh, dans le sens où tout le monde va entendre parler d'eux et tout le monde va avoir peur d'eux. Ça va sûrement influencer des décisions politiques nationales et internationales sur oui ou non intervenir militairement en Syrie. Et donc, en fait, c'est un petit peu ce que Daesh souhaite, c'est-à-dire attirer dans ses filets l'Occident pour pouvoir justifier encore cette position de victime avec des bombardements, les enfants maltraités, des horreurs qui se passent de toutes les manières dans toutes les guerres, malheureusement. Donc ça fait partie d'un cercle vicieux. Et alors on doit se demander vraiment quelle position tenir. Est-ce qu'il faut répondre à cette provocation ou est-ce qu'on adopte une stratégie différente? Malheureusement, je ne pense pas qu'on a encore pu concevoir une stratégie différente, et Daesh le sait très bien.
À quoi espérez-vous que votre travail, cette étude très précise, très minutieuse, serve?
Je pense informer. Informer, ouvrir le débat, puis peut-être se tourner vers des sources qui sont déjà existantes depuis vraiment un certain nombre d'années, malheureusement, notamment avec la recherche aux États-Unis, la recherche au Moyen-Orient, sur le rôle des médias et du terrorisme. Il y a beaucoup de chercheurs qui ont fait pas mal de choses, et je pense que si on peut sensibiliser à d'éventuels partenariats académiques sur le sujet, et pourquoi pas journalistiques, je pense que ça serait vraiment formidable et pour le bénéfice de tous.
Une question peut-être un peu plus personnelle pour finir. Quand on travaille sur ce type de sujet, comment on fait pour garder le recul nécessaire, la lucidité qu'il faut pour mener à bien ce genre d'études et pas se laisser emporter par son émotion? Comment on se protège psychologiquement?
C'est très compliqué. Maintenant, je l'aborde comme une recherche. En fait, ma formation, c'est d'être narratologue, de travailler sur les narratifs. Donc, j'ai travaillé sur des narratifs tels que la mémoire collective post-Holocauste ou des travaux sur les médias et les affaires d'intelligence. Donc, on aborde finalement le narratif de la même manière, où ça devient un type de narratif potentiel et pas le narratif en tant que tel. Mais bon, je vous avoue que des fois, c'était pas facile tous les jours. Il fallait trouver le courage et surtout la volonté d'approcher un narratif qui peut paraître extrêmement déconnecté de la réalité et de la pleine conscience humaine, en fait.
Vous allez continuer à vous intéresser à ce sujet ou après plus d'une année de travail sur ces thèmes, vous allez passer à autre chose?
Cette recherche a été présentée à l'université d'Oxford au département de journalisme. On a organisé deux journées d'études au CRFJ, au Centre de recherche français de Jérusalem, où on a fait venir, grâce à la subvention du CNRS, donc des chercheurs de France, d'Israël, de Palestine. Je pense qu'on a vraiment abordé la recherche dans plusieurs angles, mais du coup, ça a enrichi vraiment mon regard. On a aussi rassemblé 62 autres vidéos qui ont été produites cette année. Malheureusement, c'est pas quelque chose qui s'arrête. Donc je pense que les catégories qu'on a construites pour analyser ces vidéos vont nous permettre de continuer ce travail pour avoir un corpus constitué d'environ 120 vidéos. Donc ça peut être vraiment intéressant pour la recherche de ne pas s'arrêter là.
Merci Alexandra Erfroy-Michler.
Je vous en prie.